Bienvenue à ce troisième amphi de physique statistique. Il sera consacré à l'étude de l'équilibre thermique et composé de trois parties. Nous reviendrons tout d'abord sur les résultats obtenus dans les deux premiers amphis, en particulier sur les notions d'entropie et de température statistique. Puis nous examinerons en détail la distribution de Boltzmann-Gibbs. Enfin, nous étudierons un outil important pour étudier ces systèmes qui s'appelle la fonction de partition, et nous donnerons un certain nombre d'exemples. Je reviens donc sur la description statistique des grands systèmes à travers le système générique qui avait déjà été présenté, c'est-à-dire une assemblée de grand N particules indépendantes, discernables, qui sont disposées dans des niveaux d'énergie quantifiés. Les énergies valent epsilon i, le nombre de particules dans chaque niveau d'énergie est noté ni. Un macroétat est déterminé par la connaissance du nombre de particules ni dans chaque niveau d'énergie epsilon i, alors qu'un microétat correspond à une connaissance beaucoup plus précise, à savoir le niveau d'énergie de chacune des grands n particules. Le principe de désordre maximum indique que le macroétat d'équilibre correspond à celui qui maximise le nombre de microétats. L'entropie statistique de Boltzmann, S égale K log de W, où W est le nombre de microétats, est ainsi maximale à l'équilibre. Regardons plus attentivement cette entropie statistique. Pour un système à n particules, ou plus largement n degrés de liberté, on montre que, pour des raisons combinatoires, grand N étant très grand, W, comme fonction de grand N et de E, s'écrit comme exponentielle de grand N fois une fonction petit f de l'énergie grand E. C'est ainsi que le nombre de microétats varie exponentiellement avec le nombre grand N. Ici est représentée schématiquement la fonction f de E pour deux systèmes simples, le gaz parfait en vert et un système à deux états en bleu. Cette représentation montre que pour un système à deux états, la fonction f de E est d'abord croissante, puis décroissante, alors que, dans un gaz parfait, elle est constamment croissante. En conséquence, l'entropie statistique de Boltzmann s'écrit S de N et de E égale K fois grand N fois F de E. La proportionnalité de l'entropie S au nombre grand N de particules exprime l'extensivité de l'entropie. Revenons maintenant sur la température statistique. Nous avons considéré l'équilibre thermique de deux systèmes, c'est-à-dire la possibilité pour ces deux sous-systèmes d'échanger de l'énergie. L'ensemble étant lui-même un système isolé, l'énergie grand E égale E1 plus E2 est une constante. L'équilibre thermique s'exprime du point de vue de la thermodynamique par le fait que les températures T1 et T2 sont égales, alors qu'une analyse microscopique exprime le fait que les quantités bêta 1 et bêta 2 sont égales. L'étude statistique a montré que bêta s'identifie à la dérivée du logarithme du nombre de microétats par rapport à l'énergie. Et l'on a montré la relation entre le paramètre bêta et la température thermodynamique T. Bêta est égal à 1 sur KT, cela nous l'avions vu, est complètement lié à la relation dE égale TdS. Je considère maintenant le cas d'un gaz parfait. Il faut pour cela faire un calcul qui conduit à étudier le volume ou la surface d'une hypersphère. Le résultat de ce calcul, c'est que si l'on exprime W de grand N et de grand E comme exponentielle N fois petit f de grand E, alors la fonction petit f de grand E s'écrit 3 demi du logarithme de grand E plus une constante. En conséquence, la grandeur bêta, comme dérivée du logarithme de W par rapport à l'énergie, est égale à 3 grand N sur 2 grand E. Ceci est pleinement équivalent à grand E égale 3 demi de N KT, où T est la température du gaz parfait. L'étude complémentaire de la pression exercée par le gaz parfait sur une paroi montre que grand E est égal à 3,5 de P fois V. J'en viens maintenant à l'étude de l'équilibre thermique entre un petit système et un grand système. Et je vais construire la notion de thermostat. Donc on a un grand système de volume grand V, d'énergie grand E, constitué de grand N particules. Et au sein de ce grand système, on considère un petit système de volume petit V, de nombre de particules petit N, et d'énergie petit E. Petit V est petit devant grand V et est fixé. Petit N est petit devant grand N et est fixé, tandis qu'on autorise les échanges d'énergie entre le petit système et le grand système. Petit E est donc une grandeur fluctuante. L'étude globale du système permet de montrer que l'énergie petit E est de l'ordre de petit N sur grand N fois l'énergie grand E, c'est-à-dire qu'elle est très petite devant grand E. Si par ailleurs, on compare les variations de température du petit et du grand système autour de ces fluctuations d'énergie, on montre qu'elles se comparent par le facteur petit n sur grand N. C'est dire que les variations de température du grand système sont très petites devant celles du petit système. Plus précisément, prenons le cas d'un gaz parfait. On a identifié l'expression de la température statistique bêta comme étant égale à 3n sur 2 grand E. Ainsi, pour le petit système, c'est bêta petit v égale 3 petit n sur 2 petit e. Et donc, si je trace bêta en fonction de l'énergie, c'est une fonction décroissante, alors que la température statistique du grand système est égale à 3 grand n sur 2 grand e moins petit e. Et ainsi, il s'agit d'une fonction qui est très lentement croissante en fonction de l'énergie petit e. L'intersection des deux courbes est le point qui permet de déterminer l'énergie moyenne du petit système, valeur moyenne de E. En conclusion, le grand système agit comme un thermostat dont la température est fixée et imposée au petit système qui, lui, voit son énergie fluctuer et c'est son énergie moyenne qui est imposée. Après avoir défini la notion de thermostat, j'en viens à la distribution de Boltzmann-Gibbs. Je considère toujours l'équilibre entre un petit système et un grand système, que j'appelle thermostat. L'ensemble est un système isolé et je cherche à déterminer la probabilité PI d'un micro-état du petit système. Pour ce faire, je vais être amené à considérer les micro-états du système global constitués d'un micro-état petit i du petit système et d'un micro-état grand j du thermostat. L'ensemble étant isolé, les micro-états i grand j sont équiprobables et leur probabilité p i grand j est égale à 1 sur w tot, le nombre total de micro-états du système global. P i va être donné par la somme des PI grand J tels que l'on considère tous les micro-états grand J qui vérifient la contrainte de conservation de l'énergie du système complet, c'est-à-dire tous les micro-états grand J tels que E grand J est égal à grand E moins petit e indice I. En conséquence, les PI grand J étant tous égaux à 1 sur W tot, je dois compter le nombre de micro-états du thermostat qui vérifie la contrainte sur l'énergie, que j'appelle W thermostat de E indice I. Mais ce thermostat, nous l'avons vu, a une température bêta qui est fixée. Or, bêta, c'est la dérivée du nombre de micro-états du thermostat par rapport à son énergie. En conséquence, on peut écrire le nombre de micro-états du thermostat en fonction de son énergie comme étant égal à exponentielle bêta fois l'énergie du thermostat. On en déduit que le nombre de micro-états du thermostat est proportionnel à exponentielle moins bêta fois petit e. C'est ainsi que la probabilité PI d'un micro-état du petit système est donnée par un facteur exponentiel moins bêta fois EI, où bêta est la température du thermostat et EI l'énergie du micro-état considéré, et un facteur 1 sur grand Z de normalisation des probabilités. La représentation de PI en fonction de EI est donc une courbe exponentielle et le facteur s'appelle le facteur de Boltzmann. On voit donc que les probabilités des micro-états d'un système à l'équilibre thermique ne sont pas égales, elles vérifient une distribution exponentielle. Intéressons-nous maintenant à la distribution d'énergie P de E. Pour chaque énergie petite e, il peut y avoir tout un ensemble de micro-états petit i qui vérifient la contrainte sur l'énergie. En conséquence, P de petit e s'écrit comme une somme de PI vérifiant cette contrainte, ce qui fait apparaître d'une part le facteur de Boltzmann, une fonction exponentiellement décroissante de l'énergie, et un nombre de micro-états vérifiant la contrainte, W de E, dont on avait vu qu'il était en exponentielle grand N F de E, c'est-à-dire une fonction cette fois-ci exponentiellement croissante. Le produit de ces deux fonctions fait apparaître un pic autour d'une certaine valeur de l'énergie et avec une certaine largeur. Pour en dire plus sur ce pic, étudions le cas du gaz parfait, pour lequel on avait vu que la fonction F de E s'écrit 3 demi de log de E plus une constante. P de E est maximum pour 3n sur 2 E égale bêta. Effectuons un développement limité à l'ordre 2 de P de E autour de ce maximum. Le calcul permet d'identifier la largeur du pic delta E en fonction du nombre petit n et de la température bêta. On obtient ainsi P de E sous la forme Pmax exponentielle moins E moins valeur moyenne de E au carré sur 2 delta E carré, et l'on a identifié valeur moyenne de E et delta E. Le résultat valeur moyenne de E de l'ordre de nkt et delta E de l'ordre de racine de n fois kt est général. Et en conséquence, les fluctuations relatives de l'énergie sont en général en 1 sur racine de n. L'étude qui a été menée sur un petit système en équilibre avec un thermostat vaut pour un système restreint à une seule molécule, le thermostat étant constitué par l'assemblée des grand N moins une autre molécule. Dans ce cas, un micro-état petit i à une particule correspond à la connaissance de la position R et de la quantité de mouvement P de la molécule. Son énergie EI est restreinte à l'énergie cinétique PI carré sur 2m. En conséquence, la probabilité du micro-état est donnée par exponentielle moins EI sur kt. Je peux aussi écrire la probabilité du vecteur vitesse V qui est proportionnelle à exponentielle moins mv sur 2kt. Cela ne dépend pas de la direction du vecteur vitesse. Et je peux ainsi m'intéresser à la distribution de probabilité du module de la vitesse. Il faut alors que j'intègre sur l'ensemble des directions et j'obtiens la loi de distribution des vitesses de Maxwell-Boltzmann et est représentée ici l'évolution de cette distribution des vitesses en fonction de la température. J'énonce un résultat important qui s'appelle le théorème d'équipartition de l'énergie. Il nous dit que si l'on considère un système à l'équilibre thermique à la température T, tel que son énergie s'écrit comme une fonction d'un certain nombre de variables petit q et grand Q, et tel que cette énergie s'écrit sous la forme d'une fonction quadratique de petit q, aq carré, plus une fonction de toutes les autres variables que j'appelle f de grand Q, laquelle fonction est indépendante de petit. Alors, le théorème d'équipartition de l'énergie nous dit que la valeur moyenne de l'énergie associée à la variable petit q, c'est-à-dire valeur moyenne de aq carré, est égale à kt sur 2. L'illustration la plus nette de ce résultat est la vitesse thermique dans un gaz parfait. Pour un gaz parfait, on peut écrire que l'énergie est égale à la somme des énergies cinétiques de chacune des molécules, qui sont indépendantes, et chacune de ces énergies cinétiques se décompose en une énergie cinétique selon chacune des trois directions. Ainsi, l'énergie grand E s'écrit 1/2 de m vx i carré plus d'autres termes indépendants de vxi. L'application du théorème d'équipartition de l'énergie nous dit que la valeur moyenne de 1/2 de vxi carré est égale à kt sur 2. En conséquence, la vitesse thermique est égale à la racine de 3kt sur m. Le deuxième exemple est la capacité thermique des solides. Dulong et Petit ont montré au début du 19e siècle que la capacité thermique molaire des solides était toujours autour de 3 fois grand R, la constante des gaz parfaits. Ce résultat intrigant se comprend en considérant le solide comme une assemblée d'atomes qui vibrent autour de leur position d'équilibre. Ces vibrations sont décrites par des oscillateurs harmoniques, le nombre d'atomes étant grand N, le nombre d'oscillateurs harmoniques est 3 grand N pour prendre en compte les 3 orientations possibles pour les vibrations. L'énergie totale du solide est ainsi égale à 3N termes du type 1/2 de mx point carré plus 1/2 de kx carré, c'est-à-dire une énergie d'oscillateur harmonique selon la direction petit x. L'application du théorème d'équipartition de l'énergie nous permet d'écrire que l'énergie moyenne d'un oscillateur harmonique, c'est la somme de 2kt associée à la variable x et à la variable x point, ces deux variables étant indépendantes. Et en conséquence, l'énergie totale du solide est égale à 3nkt et la capacité thermique molaire du solide est égale à 3na fois k, c'est-à-dire 3 grand R, la loi de Dulong et Petit. Je considère maintenant le problème de l'atmosphère isotherme, c'est-à-dire une assemblée de molécules à la température T plongée dans le champ de gravité. Je considère toujours que mon petit système est l'une des molécules. Son énergie est la somme de son énergie cinétique P carré sur 2m et de son énergie potentielle V2R dans le champ de gravité, c'est-à-dire mgz. En conséquence, la distribution de Boltzmann-Gibbs me dit que la probabilité d'un microétat décrit par la position R et la quantité de mouvement P d'une molécule est en exponentielle moins 1/2 de mv carré plus mgz, le tout sur kt. Lorsque je somme sur toutes les vitesses possibles et que je m'intéresse à la probabilité pour une molécule d'être à la position z, je vais pouvoir construire la densité rho de z. Le calcul montre que rho de z est en exponentielle moins z sur grand H, où grand H est une épaisseur caractéristique égale à kt sur mg, c'est-à-dire le rapport de l'énergie thermique sur une énergie dans le champ de gravité. La même distribution exponentielle de densité sous l'effet du champ de gravité est observée lorsqu'on considère non pas les molécules d'un gaz dans l'atmosphère, avec une épaisseur caractéristique de l'ordre de 10 000 mètres, mais quand on considère la distribution de particules dites colloïdales dans une suspension. Il s'agit de particules qui ont une taille de l'ordre du micron, de sorte qu'elles sont soumises de la part des molécules voisines à des chocs incessants et que ces particules sont browniennes. On peut ainsi faire l'analogie entre le problème de l'atmosphère isotherme et celui de cette suspension colloïdale à l'équilibre thermique. C'est ce qu'a fait Jean Perrin au début du siècle dernier. Il a mesuré la distribution de ces particules colloïdales. On voit sur cette diapo quelques illustrations de ces mesures et il a pu vérifier la distribution de Boltzmann dans ce cas de figure. Après ces exemples, je vais maintenant présenter un outil très important pour calculer les grandeurs thermodynamiques dans un système à l'équilibre thermique. On a vu la distribution de Boltzmann-Gibbs et cette distribution fait apparaître un facteur de normalisation, grand Z, qui, par construction, est égal à la somme des facteurs de Boltzmann. Ce facteur grand Z s'appelle fonction de partition. La notation grand Z vient de l'allemand Zustandssumme, somme sur les états. La fonction grand Z est sans dimension, c'est une fonction de la température qui va, nous allons le voir, nous renseigner sur les grandeurs thermodynamiques. Je vais tout d'abord considérer une assemblée de composantes identiques. Il peut s'agir des modes de vibration d'un solide, des moments magnétiques sous l'effet d'un champ magnétique, d'une macromolécule dont les maillons peuvent s'orienter en fonction de la force exercée. Ces systèmes peuvent être décrits par le modèle générique que j'ai déjà présenté, à savoir N composantes identiques, indépendantes, avec des énergies quantifiées. Je connais le nombre de particules Ni dans chaque niveau d'énergie epsilon I. Je maximise l'entropie statistique S égale K log de W sous la contrainte d'une énergie grand E, somme des Ni epsilon I connues. W est donné par un dénombrement élémentaire, factoriel grand N, sur le produit des factoriels Ni. Nous avons montré dans l'amphi précédent que Ni est en exponentielle moins bêta epsilon I, avec bêta égale 1 sur kT. Je peux donc écrire que grand N, somme des Ni, est aussi égal à grand A fois la somme des exponentielles moins bêta epsilon I. Et grand E égale somme des Ni epsilon I s'écrit grand A, somme des epsilon I exponentielle moins bêta epsilon I. Je peux m'intéresser à l'énergie moyenne pour une composante, c'est-à-dire grand E sur grand N, qui prend l'expression sur la diapositive. Donc voici la composante type que je considère. Le résultat remarquable, c'est que cette énergie moyenne, E sur grand N, s'exprime à partir de la dérivée par rapport à la température statistique bêta du logarithme d'une fonction petit z qui s'écrit somme des exponentielles moins bêta epsilon I, c'est-à-dire la fonction de partition considérée sur une composante. Je vais maintenant montrer des propriétés de factorisation de la fonction de partition qui sont très importantes car elles permettent de mener les calculs de façon simple. Considérons ainsi un système à deux composantes. Le microétat de ce système est défini par l'énergie epsilon I1 sur la composante 1 et le microétat J2 sur la composante 2. L'énergie E grand I est donnée par la somme des énergies epsilon I1 plus epsilon J2. Si je calcule la fonction de partition grand Z pour l'assemblée des deux composantes, c'est une somme sur toutes les possibilités de microétat grand I de exponentielle moins bêta E grand I. Mais grand I, c'est la paire I1-J2. Et grand EI, c'est epsilon I1 plus epsilon J2. Je peux ainsi réécrire grand Z comme sur la diapositive, mais je vois immédiatement une propriété de factorisation sur chacune des deux composantes qui me permet d'écrire grand Z comme le produit des fonctions de partition Z1 et Z2 pour chacune des composantes. Je l'illustre avec le système de molécules diatomiques d'un gaz parfait qui possède la propriété de pouvoir tourner sur elle-même et de pouvoir vibrer. Mes composantes sont ainsi la rotation et la vibration, et j'écris l'énergie grand E comme la somme d'une énergie de rotation, E grand R, et d'une énergie de vibration, E grand V. Je peux ainsi l'écrire comme la somme sur toutes les molécules, alpha, de 1 à grand N, d'une énergie de rotation epsilon alpha R et d'une énergie de vibration epsilon alpha V. Pour étudier les propriétés statistiques, je vais m'intéresser à la distribution des molécules sur les niveaux d'énergie de vibration à gauche et de rotation à droite. Les énergies quantifiées associées aux modes de vibration et de rotation ne sont pas les mêmes. Je dois donc traiter séparément ces deux sous-systèmes. Considérons une composante de vibration. Je fais apparaître la fonction de partition petit zv égale à la somme sur petit i des exponentielles moins bêta epsilon i v. La fonction de partition z grand v s'obtient par la règle de factorisation expliquée juste auparavant comme la fonction de partition petit z grand v à la puissance grand n. De la même façon, si je m'intéresse à une composante de rotation, je vais faire apparaître la fonction de partition petit z grand r comme la somme sur petit j des exponentielles moins bêta epsilon j r et la fonction de partition grand z r égale à petit z r puissance grand n. Au total, la fonction de partition grand z correspondant à toutes les possibilités de vibration et de rotation pour chacune des grandes N molécules va pouvoir s'écrire comme le produit de la fonction de partition ZV pour les modes de vibration et ZR pour les modes de rotation. Ainsi, de façon générale, la fonction de partition grand Z s'écrit comme le produit des fonctions de partition associées à chacune des composantes. Ceci étant vrai pour des particules identiques et discernables. Je reviens sur la question de la distribution de l'énergie. Nous avions vu que la probabilité P de E était le produit du facteur de Boltzmann par le nombre de microétats. On peut prendre le calcul à partir de la distribution des microétats en exprimant le fait que la probabilité d'un microétat est donnée par 1 sur grand Z exponentielle moins bêta EI. Grand Z, la fonction de partition, est égale à la somme des exponentielles moins bêta EI. En conséquence, si l'on s'intéresse à la valeur moyenne de l'énergie, elle est égale à la somme des énergies EI pondérées par leur probabilité PI. Si on remplace par la valeur de PI, on obtient l'expression suivante. Et on reconnaît là le fait que la valeur moyenne de l'énergie peut être écrite à partir de moins dérivée de log de Z par rapport à bêta. Nous allons maintenant appliquer ces résultats à trois types de systèmes physiques. Le premier, c'est une macromolécule constituée de grands N maillons de longueur petit a qui peuvent être orientés a priori de façon aléatoire dans les trois directions. On va s'intéresser à l'effet d'une force appliquée à une extrémité, ce qui aura pour conséquence d'introduire un travail de la force dans une déformation d'un maillon. Le calcul montre que la fonction de partition de ce système va être égale à la fonction de partition associée à un maillon, petit z, à la puissance grand N, et petit z va pouvoir s'écrire comme la somme des exponentielles bêta fois l'énergie caractéristique associée à la déformation d'un maillon, qui vaut f scalaire petit a. Tout calcul fait, on montre que le vecteur grand R entre l'origine et l'extrémité de la macromolécule est en moyenne proportionnel à la force F appliquée avec un préfacteur proportionnel à la taille de la macromolécule grand N et inversement proportionnel à la température grand T. Ce résultat est caractéristique d'une propriété d'élasticité entropique de ces systèmes pour lesquels les molécules peuvent s'orienter de façon aléatoire. Le deuxième système considéré est un système magnétique. J'ai ici des assemblées de grand N moments magnétiques qui peuvent s'orienter sous l'effet d'un champ magnétique grand B. On montre que l'aimantation grand M est une fonction croissante de l'aimantation grand B. Elle sature à la valeur grand N fois petit m, où petit m est le moment magnétique élémentaire, et l'aimantation totale, grand M, est proportionnelle au champ magnétique B, avec un préfacteur proportionnel au nombre de moments magnétiques, grand N, et inversement proportionnel à la température. Ce résultat, vous le noterez, est en parfaite analogie avec celui de l'élasticité entropique. Le troisième exemple est celui de la capacité thermique des solides. Nous avons vu tout à l'heure que la capacité thermique molaire à haute température est donnée par la loi de Dulon et Petit, à savoir elle est égale à 3 fois grand R, la constante des gaz parfaits. Toutefois, il a été constaté au cours du 19e siècle qu'à basse température, la capacité thermique molaire chute et tend vers zéro. Ce résultat peut se comprendre en considérant la quantification de l'énergie des modes de vibration du solide. Du point de vue classique, l'énergie d'un oscillateur harmonique est donnée par 1/2 de mx point carré plus 1/2 de kx carré, mais la mécanique quantique nous apprend que cette énergie doit être quantifiée sous la forme n plus 1/2 h bar oméga. H bar oméga est le quantum d'énergie et petit n représentera un niveau caractéristique pour cet oscillateur harmonique. En conséquence, la fonction de partition petit z va pouvoir s'écrire de façon générale sous la forme de exponentielle moins bêta En. Il s'agit d'une somme discrète. On voit que si l'on introduit la grandeur auxiliaire grand X égale exponentielle moins bêta h bar oméga, alors on va pouvoir écrire la fonction de partition petit z sous la forme grand X puissance 1/2 fois une somme de grand X puissance n. Mais on voit apparaître une somme géométrique dont le résultat est connu, et finalement petit z s'écrit grand X puissance 1/2 sur 1 moins x. Le résultat, c'est que l'énergie moyenne de l'oscillateur harmonique, qui est donnée par moins dérivé log de z par rapport à bêta, a l'expression qui est montrée sur la diapositive, et dont on peut voir que la moyenne de haute température est kT, c'est-à-dire l'énergie moyenne d'un oscillateur harmonique classique, tel que donné par le théorème des quipartitions d'énergie, tandis que la limite de basse température est 1/2 de h bar oméga, c'est-à-dire la limite où n tend vers 0. En conséquence, la capacité thermique molaire à la valeur 3 grand R à haute température, mais chute vers 0 à basse température. J'arrive au terme de cet amphi avec quelques résultats clés pour un système en équilibre avec un thermostat, c'est-à-dire un système à l'équilibre thermique. Pour un tel système, la température est fixée par le thermostat bêta égale 1 sur kT. La probabilité des micro-états est donnée par la distribution de Boltzmann-Gibbs, PI égale 1 sur grand Z exponentielle moins bêta EI. Le facteur de normalisation grand Z s'appelle fonction de partition, grand Z est sans dimension, est une fonction uniquement de la température bêta. On peut calculer les grandeurs thermodynamiques à partir de la fonction de partition. Ainsi, l'énergie s'exprime sous la forme de moins la dérivée du logarithme de la fonction de partition par rapport à bêta. Et enfin, la fonction de partition vérifie des propriétés de factorisation très utiles pour pouvoir mener les calculs.